Parfois, ils prennent toute la place dans nos têtes, on ne pense qu'à eux. Ils sont notre raison de vivre, notre bout de terre à l'horizon. Mais parfois, ils sont tout petits, timides, bien camouflés dans un coin de notre cerveau. On ose à peine les écouter et encore moins les envisager. Et pourtant, ils nous chatouillent chaque jour un peu plus, impossible de s'en dépêtrer.
Le monde est à nous. Alice Milo, Cerise Maréchaux.
Les rêves, vivre ses rêves coûte que coûte, c'est le sujet du Monde est à nous aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Cerise.
Salut Alice.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans leur réalité, leur quotidien et leur intimité pour parler de tout et sans tabou. Et pour notre toute première émission, c'est Sokona et Eladj qui ouvrent le bal pour nous dévoiler leurs rêves les plus fous, des projets pour lesquels ils se battent, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils aient vécu, Veni, Vidi, Vici. Excusez-moi, mais je crois que j'ai l'impression de vous connaître. À 26 ans, son visage est déjà familier des Français. Il a la tête du bon pote que l'on croit connaître depuis toujours. Mais un bon pote qui a gravi les marches du Festival de Cannes en mai dernier. Ah oui, quand même. Eladj Touré, tu es notre invité du jour. Bonjour.
Bonjour.
Et Cerise, comme moi, tu as découvert Eladj sur les écrans.
Oui, Eladj, tu es un personnage, si j'ose dire, de l'excellent documentaire À voix haute de Stéphane de Freitas qui a été diffusé à la télévision puis au cinéma cette année. Un docu qui suit pas à pas les participants d'Eloquentia, un concours d'éloquence proposé aux étudiants de l'université de Seine-Saint-Denis. Lunettes sérieuses et le sourire doux, tu apprends à sublimer ton langage et ton attitude pour être mieux entendu. En 1h15, on assiste à ta transformation et à celle de tes coéquipiers comme une chenille devient papillon. Aujourd'hui, avec ton master de socio en poche, tu es un jeune entrepreneur qui tâtonne encore pour accomplir tes rêves. Mais nous, Eladj, on croit déjà en toi.
Une autre dans laquelle on croit aussi, c'est Sokona. Oui, parce que Eladj, dans quelques instants, tu vas rencontrer par la magie des ondes Sokona, qui est donc l'autre jeune du Monde est à nous. Elle a 15 ans, mais elle en paraît facile 3 de plus, avec son physique de basketteuse, sa coupe afro et son look de jeune femme. Sokona est issue d'une fratrie de 4 enfants. Ses parents sont franco-maliens et travaillent dans la restauration. Elle habite dans une petite cité à Villetaneuse et vient de terminer sa seconde au lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine dans le 93. C'est d'ailleurs là-bas que je l'ai rencontrée.
Mélissa, tu veux quoi, toi?
Bah en fait, là, on est devant la façade du lycée. On est juste à côté du garage où il y a tous les manuels scolaires. Et en face de nous, il y a la cour de récréation. Et par rapport à là, bah, on peut voir tous les bâtiments qui entourent le lycée. On va descendre par là.
Ouais.
C'est le dernier jour d'école, le lycée il ferme ses portes pour tous les élèves parce que dans 2 semaines, on a les épreuves du bac. Comme on peut le voir dans la cour là-bas, il y a encore certains élèves qui révisent pour le bac. Alors là, on va se diriger vers le premier étage. Je viens pas en traînant les pieds, j'ai pas aussi le plaisir de venir au lycée, mais je suis obligée parce que c'est mon futur qui joue en jeu, donc ouais, je suis obligée.
Donc là, c'est la fin de l'année. Là, tu es en seconde. Est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire plus tard?
Bah oui, parce que j'ai un rêve de petite fille. Et mon rêve, c'est de devenir concessionnaire automobile.
Alors, c'est quoi concessionnaire automobile?
Alors, concessionnaire automobile, c'est une personne qui travaille dans une entreprise automobile. En fait, quand il y aura un client qui va rentrer dans la boutique et tout, il va pas savoir ce qu'il veut. Donc moi, je serai là pour le conseiller, pour lui dire, ah oui, bah, on a reçu de nouvelles voitures. On va leur demander leur style, ils veulent quoi comme voiture. Et suite à ça, on va les aider à trouver une voiture. Je suis beaucoup passionnée des voitures. Parce que mon père regardait surtout Automoto les dimanches matin et j'étais toujours la première à me réveiller avec lui pour regarder. Ça passait dans les alentours de 10h, 11h.
Donc c'est un magazine à la télé hein, sur les voitures.
Ouais, c'est pas que j'aimais toujours les voitures, mais mon père il avait beaucoup de magazines automobiles et je m'intéressais toujours à ça. Je feuilletais les pages malgré que j'avais du mal à lire et tout. Mon père, c'est un garçon qui va tout le temps surveiller sa voiture, il va toujours la nettoyer, il va en prendre soin et tout. Quand il y aura une petite rayure sur la voiture, il va la ramener au garage pour faire la peinture, ou soit pour changer ses pneus tout le temps. Et quand mon père est parti au garage pour changer sa voiture, ou la laver et tout, bah, je partais toujours avec lui, et je l'aidais et tout. Un jour, il y avait un mécanicien qui m'a surpris à regarder les voitures, à les toucher et tout, bah, il m'a dit, tu veux essayer? Il m'a passé une clé à molette et il m'a appris à changer un pneu, ouais, le pneu arrière de la voiture à mon père. Quand je suis rentrée au collège en 6e, à l'âge de 10 ans et demi, donc j'ai dit, bah, je vais faire ça, je vais travailler dans l'automobile. Puisque c'est un rêve de petite fille, bah, pourquoi pas le réaliser? Ma mère, elle m'a dit, non, c'est pas un métier pour toi, c'est un métier plus dédié aux garçons. Donc, puisque tu es une fille, tu dois te diriger soit vers le droit ou la médecine. Mais je lui ai dit, non, je veux pas, c'est pas ce que je veux faire. Mais en fait, grâce à mon métier, j'aimerais lui prouver que c'est pas les garçons qui peuvent être concessionnaires automobiles. Il y a beaucoup de filles et tout qui peuvent le faire.
Et alors, tu vas t'y prendre comment pour devenir concessionnaire auto?
Alors, tout d'abord, l'année prochaine, je suis en première et je me suis dirigée vers la première STMG. Et j'aimerais choisir comme option le commerce. Et suite à ça, quand j'aurai mon bac, bah j'aimerais bien faire un BTS commerce.
Mais toi, tu veux être vendeuse ou tu veux être la patronne?
En fait, je voulais être la patronne. Mon père, il m'a dit, c'est pas en claquement de doigts que je vais être la patronne. Faut que je commence à être vendeuse, faut que j'ai des contacts et tout pour créer ma propre entreprise. Mais après, j'aimerais vraiment ouvrir ma propre entreprise de voitures et de luxe. On m'a toujours dit que j'ai de l'ambition, mais franchement, j'ai l'impression que je suis dans un rêve et tout, que je vais arriver tout à mes fins et tout, mais en fait, faut beaucoup d'efforts. Parce que si on fait un métier et tout qu'on n'aime pas, enfin pas qu'on n'aime pas, mais qu'on n'apprécie pas, on va toujours se poser des questions et tout, on va dire pourquoi on a fait ça et tout. Et moi, j'aimerais en fait que toutes les personnes sur Terre bah, choisissent leur métier, parce que franchement, si tu fais un métier que t'aimes pas, bah, tu vas tout faire mal en fait.
Et là, je Sokona, qu'on vient d'entendre, à 15 ans, toi, tu es un jeune entrepreneur de 26 ans. Ta réaction face au rêve de Sokona?
Je trouve ça très beau. C'est vraiment là, ça me surprend parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait 15 ans en fait. Elle est extrêmement lucide, elle est très réaliste, elle est déterminée aussi. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais ça me motive énormément dans tout ce que j'entreprends quoi. Mais c'est vrai que moi à cet âge-là, j'étais un peu dans le flou, je savais pas où j'allais, je savais pas trop où je me dirigeais non plus. C'est vrai que pour moi, c'est très très impressionnant d'entendre une jeune fille de 15 ans qui sache déjà et qui est prête à tout, surtout pour arriver à ses fins, quoi. Je sens qu'elle est motivée, qu'elle a conscience aussi qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts, et je trouve ça très très beau, c'est dingue.
Et ça t'étonne pour une fille de rêver de voiture?
Oui et non, dans le sens où moi autour de moi, j'ai grandi dans... Moi, j'ai été élevé uniquement par des femmes. Donc, autour de moi, j'ai deux de mes sœurs qui, elles, sont très, très branchées voiture aussi. Donc, dans ce sens-là, ça m'étonne pas. Mais après, un peu quand même, dans le sens où, malheureusement, on aime bien placer les gens dans des cases. Et c'est vrai que tout ce qui touche aux voitures, on pense que c'est un truc de mec, alors que, bon, c'est voilà, faut arrêter avec ça, c'est un peu universel, quoi. Mais c'est vrai que, moi, je trouve ça très, très impressionnant de sa part de ne pas s'être laissé démonter par son environnement. C'est ouf.
Eladj, toi, tu avais un rêve de petit garçon?
Franchement, oui. Quand j'étais tout petit, je rêvais d'être policier. Mais en grandissant, j'ai fait face à une réalité qui était compliquée. Voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai été SDF. Donc, c'est vrai que quand on est SDF, on est très très souvent confronté à la police. Et disons qu'ils étaient pas très très sympas avec nous. Et à partir de là, disons que j'avais d'autres priorités, quoi. C'est à ce moment-là, cette période de ma vie, je pensais surtout entre grosses guillemets, à survivre. J'avais plus de rêve, en fait. Mon plus grand rêve sur le moment, en fait, c'était de retrouver ma famille et de trouver une maison, quoi. Mais maintenant que c'est fait, ça peut paraître un peu naïf, mais aujourd'hui, j'aspire à mon échelle, à essayer au mieux en tout cas de sauver le monde quoi. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le développement durable.
Alors justement, tu peux nous dire 2-3 mots sur tes projets aujourd'hui?
Alors en 2009, j'ai entamé une procédure pour créer une école.
En Guinée-Conakry,
oui.
Donc tes parents sont originaires de Guinée-Conakry?
Oui, mes parents sont guinéens. Nous, on vient de la Guinée-Conakry, de la préfecture de Boké. Là où on bosse, où on travaille, c'est dans la ville de Kamsar. Nous, on a créé l'école. On a beaucoup parlé avec la population. Les gens nous ont dit, enfin, que ce qui leur manquait le plus là-bas, c'était soit la santé, soit l'éducation. Au niveau de la santé, c'était un peu compliqué parce que voilà, il y a beaucoup de normes à respecter. Donc nous, on s'est lancé dans l'aventure de l'école et derrière, ça a bien marché quoi. Aujourd'hui, on accueille entre 600 et 650 élèves. Et là, cette année, je me concentre sur des projets agricoles parce que maintenant, voilà, après avoir fait d'autres réunions justement avec les gens là-bas, on s'est mis d'accord pour essayer d'endiguer la famine entre guillemets à notre échelle. On a acheté 12 hectares là. Et là, d'ailleurs, là, dans un ou deux mois, je vais y aller pour essayer de travailler un peu tout ça. Et sinon, au-delà de ça, avec un ami aussi, on a un projet. On va lancer une ligne de vêtements. C'est ce qu'on veut faire, c'est faire du commerce équitable. On veut essayer de créer des vêtements, mais principalement en wax. Mais ce qu'on veut, c'est surtout essayer de valoriser le travail des artisans là-bas, quoi. Parce que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en portent, mais on ne raconte pas l'histoire de ces tissus, alors que ça a une histoire qui est très marquée, qui est très profonde, c'est culturel. Et nous, on aimerait bien essayer de faire un truc un peu cool autour de ça avec deux amis, quoi. On verra.
Des beaux projets en perspective.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. à des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanuchien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans et limé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous, on pend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui est fan de choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Gaël Faye, Irruption sur RFI, c'est le choix musical de El Hadj, notre invité dans Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes tout l'été, et aujourd'hui chacun poursuit ses rêves. Comme El Hadj, découvert cette année dans À Voix Haute, magnifique documentaire qui a été projeté dans les salles de cinéma au printemps, un film qui suit les participants d'Eloquentia, un concours d'éloquence proposé aux étudiants de l'université de Seine-Saint-Denis, auquel tu as participé, et tu y dévoiles notamment ton histoire et tes rêves justement.
Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie.
La parole, c'est une arme qui sert surtout à se défendre, je trouve. Quand je retrace mon parcours, je me dis que si j'avais eu les bons mots au bon moment, j'aurais pu changer littéralement certains événements de ma vie. À mes 15 ans, il y a eu un incendie chez nous au Pré Saint-Gervais. On a dû descendre par le 6e étage en sautant par le balcon et tout, c'était n'importe quoi. À partir de là, ma vie, elle a littéralement changé.
Et là, on vient de t'entendre dans cet extrait d'Eloquentia, enfin de À Voix Haute, plutôt le documentaire. Tu vivais donc avec ta famille dans cet appartement au moment où se déclenche l'incendie dont tu parles, avec donc tes deux parents guinéens qui à ce moment-là sont sans papier, et tes frères et sœurs. En quoi ta vie a basculé à ce moment-là?
C'est violent en fait. Enfin, j'ai découvert un univers et un monde qui était vraiment très très violent, dans le sens où on était seul, on était dans le besoin, mais il y avait très peu de personnes qui étaient là pour nous aider. Et c'est vrai que moi, à l'âge de 15 ans, ça, pour moi, ça n'avait aucun sens en fait.
Que vous êtes retrouvé à la rue donc.
Ouais, une fois que l'incendie s'est déclaré, enfin France Habitation, l'office d'HLM, on a profité pour nous mettre dehors. Et ce qui est dingue, c'est qu'on était sur 9 étages, nous on habitait au 7e, et sur toute la façade, sur les 9 familles qui ont été mises à la rue, personne n'a été relogé immédiatement, quoi. Même aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis comment on peut faire preuve d'autant de cruauté, surtout avec des familles avec des enfants en bas âge. Moi, j'avais 15 ans, j'étais le plus vieux, j'avais 6 frères et sœurs. Donc c'était compliqué, quoi. Et c'est vrai que moi, ça a été un tournant dans ma vie, dans le sens où j'ai découvert la misère et la difficulté, en fait. Moi, aujourd'hui, je m'en plains pas, c'est quelque chose qui m'a forgé, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je m'en sers aujourd'hui, en tout cas, comme une force, mais c'est vrai que sur le moment, c'était très compliqué.
Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces 2 ans où vous avez vécu à la rue? Et toi en particulier, parce que je crois que tu as scissionné avec ta famille à ce moment-là, c'est ça?
En fait, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a dû s'endetter énormément, parce qu'elle est partie à l'hôtel. Et le gros problème, c'est que les chambres d'hôtel, elles acceptent un certain nombre de personnes et moi j'étais un peu la personne en trop quoi. Et j'ai pris la décision de me débrouiller un peu seul en mentant un peu à ma mère en lui faisant croire que j'étais chez des amis et que je me débrouillais un peu. Et au final c'était un peu pour la soulager quoi. C'est vrai qu'elle était dans une situation qui était très difficile et même là quand j'y pense je me dis elle était, ça devait être horrible pour elle. Enfin une mère seule qui doit s'occuper d'autant d'enfants alors que quand je me mets à sa place ça me fait vraiment mal au cœur. Et c'est vrai que là c'était une décision difficile mais c'est une décision que je ne regrette absolument pas.
Eladj, après l'incendie, quand tu t'es retrouvé face à cette personne de France Habitation, quels sont les mots qui t'ont manqué à ce moment-là et qui auraient pu faire une différence ?
Ce que j'aurais vraiment aimé lui dire, c'est si en tant qu'être humain et en tant que personne, il avait conscience qu'il a littéralement brisé des vies en fait. Brisé des vies, brisé une famille, créé une situation qui était vraiment inhumaine. Sur le moment, j'aurais aimé avoir la force que j'ai aujourd'hui pour pouvoir justement lui dire ces choses-là.
Et aujourd'hui, 10 ans après, tu as trouvé les mots pour le dire.
Projet de quoi ? De notre jeunesse.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos ?
Que voulez-vous ? Tôt ou tard, la vie se chargera de leur couper les cheveux.
Le monde est à nous sur RFI. Sokona, 15 ans, est une des deux jeunes à qui on tend le micro aujourd'hui dans les couloirs de son lycée à Épinay, en Seine-Saint-Denis. Si, c'est la salle de permanence, c'est ça ?
Non, ouais. C'est censé être une salle de travail, mais comme on peut le voir là, je pense que c'est pas ça pour l'instant.
Bonjour. Parce que là, on révise en fait.
Tu révises ?
Ouais.
Nassim, tu te fous ma gueule.
Vas-y, bonjour. Là.
Ça paraît très bizarre, mais en fait, j'aurais vraiment aimé être un garçon. Je suis une fille. Et ça, j'arrive pas à l'accepter si vous voulez. J'aime être un garçon parce que les garçons ils peuvent faire beaucoup de choses que les filles ne pourront pas faire. Dès mon jeune âge, quand j'étais invitée aux anniversaires de mes cousins et tout, ils avaient toujours des cadeaux masculins parce que déjà, une, c'était des garçons. Moi, j'étais un petit peu déçue parce que ma mère, elle m'achetait jamais des voitures, des robots ou soit d'autres objets masculins. Donc, j'étais jalouse. Et j'ai toujours été... Enfin, pas le bonhomme, mais j'étais le garçon de ma famille, ouais. Petite, ma mère, en fait, elle m'achetait des vêtements de fille, mais mon père, c'était le contraire, elle m'achetait que des vêtements de garçon. Et j'aimais bien, en fait, embêter ma mère et tout, parce que quand je passais devant elle et tout avec les vêtements de garçon, elle me criait dessus et tout, elle me disait, ouais, va te changer et tout. Et ma mère, c'est un petit peu la fille, enfin la dame qu'elle est aujourd'hui, qui me coiffait comme une fille, qui m'habillait comme une fille. Or, quand elle partait, je dérangeais ma coupe et tout, et je mettais des casquettes, je mettais des joggings et tout, et je me pensais que j'étais un rappeur comme dans les télés et tout, et j'étais en train d'imiter et tout. Mon père, il me prenait en vidéo, il rigolait sur moi. Et quand ma mère me voyait, elle était toujours en train de me crier dessus et tout, elle me disait, va te changer et tout, c'est pas bien ce que tu fais, parce que t'es pas un garçon, mais t'es une fille. Donc, c'est en fait, il y a beaucoup de métiers qui sont plus dédiés aux garçons que les filles, en fait, elles peuvent pas faire comme maçonnier et tout, maçonnier, en fait. Même l'homme à la maison, enfin, l'homme, ouais, à la maison, c'est le macho, alors que la fille, on va dire, c'est celle qui va s'occuper de la maison, qui va faire à manger, qui va faire le ménage. Or que j'aime pas faire le ménage. C'est un truc, oh. Quand j'essaie d'éviter, je l'évite, hein. Parce que moi, le ménage, ça fait deux. Franchement, j'aime pas.
Et là, déjà, ta réaction face à la révélation de Sokona qui dit, j'aurais bien aimé être un garçon.
Je trouve ça un peu triste quand même, quoi. Mais après, c'est une réalité. Moi, je le vois avec mes petites sœurs. Après, moi, la chance qu'on a chez nous, c'est que ma mère, elle a toujours été très juste avec nous. Comme elle le disait, par exemple, moi, faire le ménage, la cuisine, etc., ça m'a jamais posé de problème, au contraire.
C'est vrai, les tâches sont équitablement réparties à la maison.
Ouais, ma mère ne rigole pas avec ça. Ça, c'est chirurgical. S'il y en a un qui déconne, elle nous met tout de suite au pas là-dessus. Donc, c'est vrai que toutes ces choses-là, j'en ai un peu plus conscience. Mais il arrive parfois, à certains moments, que mes petites sœurs me disent que ouais, c'est... Clairement, elles le sentent qu'au niveau de la société, si elles avaient été des garçons, ça aurait été beaucoup plus simple pour elles de faire telle ou telle chose, quoi. Mais après, moi, je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le plus important pour elles, c'est de rester fidèle à elle-même. C'est une belle personne et elle a pas besoin de changer, en fait. C'est comme ma mère me le disait souvent, c'est ma mère, ça, elle me disait, fils, ça sera très compliqué pour toi, t'auras un chemin différent, un peu différent des autres, mais si tu n'abandonnes pas, ça arrivera, ça se passera bien à un moment ou à un autre. Donc, moi, si j'ai un message à lui transmettre aujourd'hui, c'est ça, quoi.
Restez avec nous, le monde est à nous, continue. On explore les rêves de nos deux invités en deuxième partie, juste après Flash, dans 3 petites minutes.
Le monde est à nous.
Puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence.
Mm-hmm. J'écoute.
Le monde est à nous. Alice Milo. Cerise Maréchaux.
Le Monde est à nous, l'émission qui chaque dimanche de l'été donne la parole aux jeunes. Et même si vous avez plus de 25 ans, vous avez bien fait de nous rejoindre. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Célèbre citation de l'écrivain américain Mark Twain qui colle bien à nos deux invités. Vivre ses rêves coûte que coûte, c'est le sujet d'aujourd'hui. Eladj, 26 ans, jeune entrepreneur, découvert dans À Voix Haute, le documentaire sur Eloquentia, le concours d'éloquence de l'université de Seine-Saint-Denis. Eladj qui s'est hissé en finale de cette compétition malgré bien des vents contraires. Et Sokona, 15 ans, lycéenne en seconde à Épinay-sur-Seine en 93, qui va passer en classe de première STMG à la rentrée, c'est-à-dire en sillon ces technologies du management et de la gestion. Ça, c'est pour les non-initiés. Sokona, dont le rêve est de devenir concessionnaire automobile, retourne dans les couloirs du BAHU.
Là, on va partir en salle des profs pour aller voir ma prof de maths, Madame Razandra.
Bonjour.
Bonjour.
Ici, c'est la salle des profs.
C'est ça. Et la grande salle où on peut, là, on a le droit de parler. Il y a les photocopieurs, la salle de langue, la salle de maths et puis la salle des profs techno.
Donc, vous êtes Jennifer Razana Dracoto.
Oui.
Vous êtes l'enseignante de mathématiques, la prof de mathématiques, en fait, de Sokona, c'est ça?
C'est ça, prof de mathématiques et prof principale de la seconde 14. Tu as été admise en première STMG, tu es contente?
Oui, je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Donc,
un moment d'hésitation quand même à la fin.
J'ai eu une hésitation, j'avais hésité entre ES et STMG.
C'est difficile se connaître, faire un choix. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est en train de jouer sa vie à ce moment-là?
Bah, c'est pas qu'on est en train de jouer sa vie, c'est qu'on joue sa vie parce que c'est ce qui va décider de notre futur. Donc, quand on a un moment de doute, vaut mieux en parler autour de soi ou soit en fait, si on est solitaire, bah, on réfléchit, on fait des recherches et grâce à ça, bah, on sait notre orientation.
Quelle est un peu l'identité en fait de ce lycée?
Déjà, c'est un grand lycée. Il y a plus de 1500 élèves. Et ça ressemble pas aux établissements que j'ai pu fréquenter. Après, on est dans une zone dite sensible. Donc, c'est un lycée classé ZEP. J'ai été affectée ici par un concours de circonstances. Donc, j'ai remplacé une collègue. J'ai appréhendé le trajet par rapport à mon domicile. Mais surtout, je suis arrivée, j'ai vu de grandes tours. Je dis, oh punaise, où est-ce que j'atterris? Et puis, dès le premier jour dans ma classe, je me suis rendu compte qu'en fait, les ados, ça reste des ados en fait. Il n'y a pas de différence entre un ado du 9-3, du 9-4 ou peut-être de Paris. Ils sont vrais, ils sont authentiques et ils font du mieux qu'ils peuvent avec les circonstances de la vie qu'ils ont.
Donc vous avez 29 élèves en classe de seconde, dont Sokona.
C'est ça, elle est dans la classe des nanas comme je l'aime m'appeler, parce qu'il y a un seul garçon dans cette classe.
Comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un seul garçon?
C'est à cause des options, le jeu des options, comme il y a une option bio, santé, sociale. Donc pour les élèves qui se destinent à faire des études dans le paramédical, dans le médical, infirmière, etc., c'est assez genré encore ce genre de filière.
Et donc Sokona, vous l'avez découvert cette année alors?
C'est ça. Elle a une forte personnalité, elle a la tête sur les épaules. Quand elle veut dire quelque chose, elle l'assume, elle le dit très haut, mais très calmement en fait. Elle prend du recul par rapport à une chose, elle ne réagit pas par impulsion.
À cet âge-là, en classe de seconde, ça vous paraît étonnant cette maturité-là?
C'est surprenant en fait. On attend d'eux qu'elles soient des ados. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, on rencontre presque des jeunes femmes. Hein, et je rencontre des parents qui disent oui, elle fait du sport, elle s'occupe de ses petits frères, elles ont des vies remplies. Moi, je suis une adulte et j'ai du mal à m'organiser, alors que elles ont 15 ans, elles ont leurs devoirs à faire, elles ont leur sport, elles ont un petit frère, des fois elles ont des parents âgés dont elles doivent s'occuper aussi. Elles ont presque des vies d'adultes, en fait. Et puis, par rapport à Sokona, c'est surtout son projet professionnel. C'est là que j'ai compris que elle, c'est carré et c'est dans sa tête. Je serai concessionnaire auto, j'adore les bagnoles et ça va se passer comme ça parce que c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais tracer. C'est ma vie et ça, c'est une forme de maturité.
Ils sont peu nombreux à avoir déjà une idée aussi précise de ce qu'ils ont envie de faire plus tard?
Très peu. Pourtant, là, j'ai des terminales. Vous voulez faire quoi? Oh, je sais pas, madame. Je me suis inscrite à ça, 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 ça. Et c'est encore flou alors que c'est eux qui sont le plus près de l'échéance de devoir vraiment choisir. Pour moi, c'est rare d'avoir une idée aussi précise et aussi claire de l'avenir professionnel qu'on a envie de se donner.
Mais elle vous a expliqué que sa maman trouvait que c'était pas un métier pour les filles?
Elle me l'a pas dit, moi. Je suis pas d'accord. Je suis pas dans métier de fille et métier de garçon en fait. Je pourrais dire un homme pourrait être sage-femme et une femme pourrait être trader. Enfin, c'est pas quelque chose qui me choque, en fait. Moi, je suis prof de maths, et puis il n'y a pas beaucoup de matheuses. Quand j'étais en fac, on était 10% dans mon amphi, et pourtant, je suis là. Je réalise de plus en plus, depuis que je fais ce métier, qu'on peut être inspirant, en fait, pour les élèves. Le seul fait de voir, enfin, désolé, mais le seul fait de voir, je suis une jeune femme noire, et je suis enseignante, et c'est pas tellement commun, en tout cas dans une équipe de maths. Et le fait de voir, vous voyez, ma prof, je crois qu'il s'identifie à moi, en fait. Et rien que le fait de faire correctement mon boulot, de voir que je suis sérieuse, que je suis assidue et tout, ça les inspire à dire, en fait, si on est réglo, entre guillemets, si on fait les choses bien, ça peut bien se passer.
Et là, toi, tu as 26 ans, donc tu en as fini avec l'école a priori, puisque donc là maintenant, tu as ton master de sociaux en poche et tu as entrepris donc des projets de développement en Guinée, Conakry, le pays de tes parents. Quelle est ta réaction au témoignage de Jennifer, donc la professeure de mathématiques de Sokona? Et en particulier, est-ce que toi, tu as déjà sur ta route rencontré un prof comme ça qui t'a orienté dans des choix décisifs professionnellement?
Ah oui, clairement. C'est vrai que, pour revenir un peu à ce que Sokona disait, moi au collège à l'âge de 15 ans, c'était pile la période où c'était un peu compliqué pour nous. J'avais vraiment pas le temps de penser à tout ça, donc quand on me demandait ce que tu veux faire plus tard, c'est une question qui me faisait un peu peur. Mais arrivé au lycée, j'ai rencontré deux professeurs, madame Linise et madame Courreau, qui m'ont beaucoup marqué, même encore aujourd'hui. C'est des personnes que je remercie énormément et je les vois encore aujourd'hui. Et même au lycée, moi je me suis dirigé vers un bac professionnel, j'étais en comptabilité. J'y suis allé sans forcément aimer la compta, quoi. Et une fois arrivé là-bas, je me demandais ce que j'allais faire. Je voulais arrêter carrément le lycée après le bac. Et au final, c'est mes profs de français qui ont vu que j'avais quelques capacités, qui m'ont dirigé après vers l'université, quoi. Clairement, ça a été un tournant dans ma vie. Parce que je pense que si j'avais arrêté l'école, déjà, j'aurais pas rencontré toutes les belles personnes que je rencontre aujourd'hui. Et je pense que ma vie aurait été complètement différente. Et c'est vrai que, comme le disait Jennifer, c'est ça. Je pense que, pour moi, la représentation, c'est important. Et clairement, ces professeurs-là, c'était des modèles. Quand elles me parlaient, ça m'inspirait énormément et ça m'inspire encore aujourd'hui, quoi. Et, quand le documentaire est sorti, quand mes projets ont commencé un peu à se concrétiser, c'était une fierté pour moi d'aller les voir, de leur dire, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et c'est grâce à vous. C'est important.
Après les deux années que tu as passées à la rue, et là tu as renoué avec l'école. Aujourd'hui, tu as un master de sociologie en poche, et comme tu nous le racontais tout à l'heure, tu as lancé plein de projets d'entrepreneuriat dans le secteur du développement sur le continent africain. Donc tu mentionnais cette école déjà ouverte qui accueille plus de 600 élèves à Kamsar en Guinée. Cet été, tu te lances dans des projets agricoles, donc tu es sur tous les fronts. Mais pour toi, aujourd'hui, quels sont les obstacles que tu rencontres sur ta route de jeune entrepreneur?
Alors, il faut savoir que, déjà, moi, je le fais à l'étranger. Et c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, c'est comme pour beaucoup de pays en Afrique, malheureusement, la situation politique là-bas, elle est très compliquée. Du coup, moi, mon principal ennemi, entre guillemets, dans tous ces projets-là, c'est un peu le gouvernement, quoi. Les mecs, c'est un peu des vautours. Dès qu'ils voient qu'il y a un projet qui commence à bien marcher, c'est un peu compliqué. Mais avant tout ça, le plus difficile pour moi, c'était d'arriver en tant que Français. Quand on arrive là-bas en tant que jeune Français, qu'on essaie d'entreprendre, on nous met tout de suite à part. Il y a beaucoup d'a priori sur nous, on pense qu'on va venir comme des grands colons et essayer de dévaliser un peu tout ce qu'il y a là-bas sans forcément faire des trucs qui sont intéressants, quoi. Donc pour moi, le plus compliqué, ça a été vraiment d'avoir l'approbation de la population et surtout de me faire accepter d'eux, quoi. Mais après, une fois que ça a été fait, ça se passe bien aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'était le plus compliqué. Après, c'est l'Afrique, quoi. La Guinée, en tout cas, moi, l'année où j'ai décidé de me lancer, c'est comme par hasard, j'étais tellement chanceux qu'il y avait une guerre civile là-bas. Donc c'était le mec qui était au pouvoir était un peu dingue. Là, aujourd'hui, ils l'ont viré, mais il était un peu dingue, il faisait un peu n'importe quoi. Donc c'est quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu bloqué, c'était compliqué. Je suis resté 8 mois quand même. Et c'est vrai que c'était très tendu à ce niveau-là.
Après, finalement, c'est en Afrique que t'as décidé de te lancer. Est-ce que ça aurait pas été plus simple de lancer un projet d'entreprise en France?
C'est vrai, mais à l'âge de 8 ans, j'avais fait un voyage avec ma mère. Et je suis tombé amoureux de l'Afrique, en fait. Dès que je suis arrivé là-bas, c'était dingue. C'est humainement parlant, c'est incroyable toutes les choses toutes les valeurs qui se dégagent là-bas, c'est incroyable, quoi. Et c'est des choses que je retrouve malheureusement pas ici. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué. Et ce rapport aussi avec la nature, il était incroyable. Quand j'étais gamin, j'étais ami avec des éléphants, quoi. Et aujourd'hui, quand je rentre ici, je suis dans mon building et je parle pas tant que ça à mes voisins. Et ça, je trouve ça un peu triste. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette liberté. Je trouve que les gens, malgré la situation, c'est vrai que il y a quand même une réalité qu'il faut pas oublier, c'est que c'est très difficile pour les gens là-bas, mais ils ont quand même cette liberté qui est magnifique, quoi. Et moi, ce qui m'énerve un peu ici, c'est que je me sens un peu enclavé parfois. C'est pour ça que j'ai décidé de me diriger vers l'Afrique.
Donc ton rêve de demain, c'est clairement sur le continent africain.
Mon rêve, c'est, si je dois le dire, enfin, si je dois le décrire à proprement parler, c'est de sauver le monde. Ça, c'est mon, ça, c'est vraiment mon.
En toute simplicité.
Clairement. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le développement durable, quoi. Moi, j'aimerais bien essayer de léguer un monde meilleur à, aux générations futures, quoi. Ikana mine mago kanu mago nevele fe Ikana mine jugo kanu mago nevele fe Sherile Ye mon amour Ma chérie mon ébife I love you mon ébife Ma chérie mon ébife I need you mon ébife Mira nima Mira Nima, bebe, mira Fanama. Mira Nima, nendi anya mole. Mira Nima, nendi anya mole. Mira Nima, ala ni anya mole. Mira Fanama. Mana mira nga sufe konu ma fone miri beja nyale Mana mira nga koduma numa Kungolo benya mile sheri mone life Ne chodana ne badon konjotale Ila dimi maniye ila kasi maniye sheri le Kele na miri mani Quelle est la galimanie? Quelle est la mirimanie? Chérie, y'a femme, quelle est les? Quelle est? Vous si pas l'imara, y'a rabbi la sirin, quelle est les? Quelle est les? Y'a fané, mané, limba l'imara, y'a rabbi la sirin, quelle est les? Mon amour, ma chérie, ne lui fait.
C'est Diki Diabaté, je suis désolée. Sur RFI, c'est le choix musical de Sokona, une de nos deux jeunes aujourd'hui dans Le Monde est à nous, spécial rêve.
Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat et je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia qui, dans 6 semaines, va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Mon idée, c'est d'essayer de vous faire prendre suffisamment confiance en vous pour vous dire « je vais me jeter à l'eau » pour avoir une parole libre, sincère et authentique, pour dire vraiment ce que je pense et surtout, et c'est le maître mot de secours, pour être convaincant.
J'avais l'impression l'année dernière, quand je suis arrivée à la fac, que toutes mes origines sociales, la catégorie socio-professionnelle de mes parents, les établissements quelque peu douteux que j'ai fréquentés, j'avais l'impression que tout ça, ça se dessinait sur mon visage, mais surtout sur ma parole.
Quand j'étais petit, mon rapport à la parole était vraiment différent de celui qui était, de celui que j'ai actuellement. J'étais un gros moqueur, vraiment. Et je parlais sans prendre en compte l'efficacité, le but de ma parole. L'objectif était de parler le plus possible. Un peu comme des éjaculations de poulet. Genre...
On vient d'entendre un extrait de À voix haute, le documentaire qui suit les étudiants de l'université de Seine-Saint-Denis qui ont participé donc à Eloquentia, un concours d'éloquence. Et là, tu as participé en 2015 et tu as été finaliste.
C'est ça.
Avec ta promo, vous avez donc suivi une formation pour apprendre à vous exprimer, ensuite de vous affronter dans l'arène de l'amphithéâtre à coups de mots bien affûtés. En quoi cette aventure d'Eloquentia a marqué ta vie ?
C'était une étape très importante de ma vie dans le sens où c'est vrai que malgré le fait que j'entreprenne déjà, je me sentais quand même entre guillemets un peu seul. C'est une très belle association qui m'a permis de rencontrer énormément de belles personnes, des personnes avec des trajectoires qui étaient très différentes de la mienne. Aujourd'hui, voilà, la plupart d'entre eux, c'est des amis et des personnes que je respecte beaucoup. Et d'ailleurs, la plupart des projets que j'ai aussi sont en commun avec certains d'entre eux.
Ça a été un tremplin social, en fait.
Oui, clairement. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est une aventure qui est tellement forte qu'on est obligé de s'ouvrir et d'apprendre à écouter les autres aussi, quoi. Rien que ça, c'était formidable. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est qu'on nous a mis dans un cadre qui était vraiment propice à s'écouter, à se découvrir les uns les autres, quoi. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré.
Mais, au-delà de ça, de cet aspect social, est-ce que vraiment, aujourd'hui, par exemple, ça t'a permis de mieux apprendre aussi à t'exprimer? Et au quotidien, est-ce que ça te sert aujourd'hui en tant que, qu'entrepreneur social? Est-ce que ça a joué?
Oui, c'est quand même, malgré tout important. Aujourd'hui, j'ai une aisance à l'oral qui est complètement différente. Je le sens clairement. C'est même encore aujourd'hui, on nous sollicite pour faire des discours, etc. Et, enfin, 10 ans ou même 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé à le faire, quoi.
Tu as grandi à Stain, en Seine-Saint-Denis. Tout à l'heure, tu nous racontais les obstacles que tu rencontres pour monter tes projets en Guinée-Conakry. Mais en France, à ton avis, est-ce que ça a été plus difficile pour toi de devenir un jeune entrepreneur ayant grandi en banlieue? Plus difficile qu'un jeune qui a vécu à Paris, par exemple?
Je ne sais pas si je serais en mesure de pouvoir comparer, mais en tout cas, je vais parler en mon nom. Le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi pratiquement toute ma vie en Seine-Saint-Denis, moi je trouve que ça m'a procuré une force qui est entre guillemets infinie, quoi. Certes, il y a une réalité, on va pas se mentir, c'est très compliqué, c'est très tendu socialement là-bas, mais au-delà de ça, moi personnellement, en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées ou toutes les personnes avec lesquelles je, entre guillemets, je traîne aujourd'hui, c'est des personnes qui entreprennent, c'est des personnes qui font des choses formidables, c'est des artistes, c'est... Moi, la Seine-Saint-Denis, ça m'a beaucoup plus apporté que ce qu'on pourrait croire, quoi.
Cette force, vous la puisez où?
On est extrêmement unis, en fait. Chacun d'entre nous, on n'a pas honte de partager nos rêves. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a une entraide qui est énorme, quoi. C'est chacun d'entre nous, on se pousse pour essayer d'y arriver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu y arriver seul. Quoi qu'il advienne, quand j'ai décidé de prendre mon billet, d'aller là-bas, d'aller travailler là-bas, j'étais seul, certes. Mais avant tout ça, avant d'entamer tout ce processus, j'avais quand même énormément de personnes derrière moi qui me soutenaient. Et toutes ces personnes-là, c'est des gens que j'ai connus en banlieue. Et enfin, aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'en suis là, quoi.
J'ai connu le froid, la faim et la honte aussi. Honte de mon apparence, honte de devoir manger dans les poubelles, honte du regard que les autres portaient sur moi. Deux choix s'offraient à moi. Le premier était d'accepter la réalité et d'affronter cette situation. Le deuxième, beaucoup plus naïf, était d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Et vous savez quoi? J'ai choisi la deuxième option. J'ai choisi de rêver et j'ai failli en mourir. Aujourd'hui, je suis là.
Un extrait donc du documentaire à voix haute dans lequel on t'entend, Eladj, faire ta plaidoirie en quelque sorte, hein, devant un amphithéâtre bondé, où tu parles du rêve justement, et tu dis que donc le rêve a failli te faire crever, c'est-à-dire...
En fait, le sujet de la demi-finale, c'était le rêve vaut-il mieux que la réalité. Et moi, j'étais à la positive. Donc pour moi, c'était intéressant de faire ce parallèle, dans le sens où... À cette période-là de ma vie, j'ai beaucoup attendu qu'on vienne m'aider, qu'on vienne me tendre la main.
Donc quand tu étais à la rue, hein.
Quand j'étais à la rue, ouais, c'est vrai que c'était une période qui était difficile. J'attendais vraiment qu'on vienne m'aider, et c'était quelque chose qui a failli me tuer, quoi, clairement. À partir du moment où j'ai décidé de me relever et de commencer à m'en sortir, c'est là où j'ai pris clairement un tournant et je me suis un peu endurci. J'ai réussi à m'en sortir. Encore une fois, c'était dans le cadre du concours, mais aujourd'hui, si on me pose la question, moi, clairement, oui, c'est aujourd'hui, moi, je serais prêt à tout pour atteindre mes objectifs et vivre mes rêves. Mais cette période-là de ma vie, je pense que c'était très compliqué pour moi de rêver.
Mais est-ce que, jusqu'à quel point il faut poursuivre ses rêves, en fait, et à quel moment il faut y renoncer quelque part? Parce que finalement, cette question que tu soulèves au moment de ce concours d'éloquence, elle est vraiment pertinente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rêver au point d'en perdre son objectif, quoi.
Bah justement, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je tends à dire même aujourd'hui à la plupart des gens qui sont autour de moi. Je pense que c'est beau de rêver. C'est quand même une faculté qui nous est propre, qui est très très belle, et ça nous permet d'accomplir énormément de belles choses aussi. Mais je pense que tout a une mesure, dans le sens où il faut faire attention quand même, parce que mine de rien, quand on rêve peut-être un peu trop, on s'échappe un peu de la réalité, quoi. Et je pense que ouais, c'est important aussi de garder les pieds sur terre. Mais pour moi, clairement, le rêve, ça fait partie des essences de la vie. Donc si aujourd'hui on vient me poser la question, je répondrai toujours oui, c'est beau de rêver, mais ne te laisse pas non plus mourir à cause de ça, quoi.
Justement, quel est le message que tu veux faire passer aux jeunes Africains aujourd'hui autour du rêve? C'est-à-dire, faut-il continuer de rêver? Et est-ce qu'il faut continuer de rêver d'Europe?
Ça, par contre, moi, c'est quelque chose qui me touche très personnellement. J'ai beaucoup de proches qui sont malheureusement décédés dans la mer. Et le grand problème, c'est que nous, la région justement où on travaille à Kamsar, c'est qu'il y a de moins en moins d'hommes, parce qu'il y a énormément d'hommes qui, de jeunes hommes surtout, qui prennent la route pour essayer de venir ici en Europe. Je pense que le gros problème aussi, c'est que ceux qui sont présents ici, on n'est pas forcément sincères et francs avec eux. Il y a énormément de personnes ici qui leur mentent et qui leur font croire qu'ici c'est l'Eldorado, que leur vie va littéralement changer s'ils débarquent ici, alors que c'est pas forcément vrai. Il y a une réalité, c'est vrai que là-bas c'est très difficile, mais je pense que si nous, aujourd'hui, la diaspora nous qui sommes présents ici, on se motive, on se réunit et on essaye d'entreprendre et de faire des choses là-bas, on pourrait clairement les mettre dans une position qui serait très confortable. Moi aujourd'hui je bosse avec énormément de jeunes, la plupart d'entre eux ils n'y pensent plus, mais c'est parce que ensemble on a pensé à essayer de construire des choses là-bas, à essayer de faire en sorte que les conditions de vie là-bas s'améliorent aussi, et ils ont pris conscience que l'Europe c'était pas forcément la solution à tout quoi. Et surtout moi je pense que c'est pas utile de prendre autant de risques juste pour entre guillemets arriver à une situation qui est pas forcément meilleure aussi quoi. C'est un pari qui est trop risqué.
Est-ce que le monde est à nous?
Le monde est à nous.
Il y a personne d'autre qui est qu'à nous, à nous seuls.
Le monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes tout l'été. Et aujourd'hui, on parle des rêves. Chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. Alors, on vous explique rapidement le concept. Un des deux jeunes de l'émission interviewe un adulte de son choix qui l'inspire ou qui l'admire pour lui demander des conseils. Et aujourd'hui, c'est Sokona, donc 15 ans, en classe de seconde en Seine-Saint-Denis, qui s'y est collée. Sokona, je vous rappelle, rêve de devenir concessionnaire automobile. Et elle a choisi de rencontrer Jean-Philippe Juvin, qui est le directeur du showroom de la marque Audi, carrément. Hein, bah, on a bien dit qu'on avait le droit de rêver, non? Alors, donc, le jour J, Sokona monte dans le RER Avitaneuse, où elle vit, direction le 16e arrondissement de Paris, et ses prestigieuses avenues. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Sokona,
bonjour. 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 Merci. Et bienvenue, Sokona.
Merci. Vous faites un petit tour du showroom pour voir comment ça se passe.
Ok. Alors, je vais juste vous expliquer que, en fait, ici, historiquement, c'était une station-service. Mmh. Voilà. Station-service qu'on a transformée, effectivement, en concession. Ici, on est dans le showroom véhicule neuf. Mmh. Hein, donc, tous les véhicules qui sont exposés ici sont des véhicules neufs, qui n'ont jamais roulé. Alors, ici, c'est le domaine que, normalement, Sokona, c'est celui que vous devriez aimer le plus. Pourquoi ?
Parce que c'est là où on conseille les clients par rapport aux voitures.
Exactement. Donc tous les gens qui sont ici, ce sont ce qu'on appelle des conseillers clients, qui vont bien sûr proposer une voiture, une Audi aux clients, et qui, je l'espère, vont vendre la voiture. Et pourquoi pas demain, bah, vous serez peut-être ici.
En fait, j'ai remarqué qu'il y a peu de femmes, et j'aimerais savoir si vous travaillez avec des femmes.
Ah, la question piège. Alors c'est vrai que l'automobile est un milieu historiquement d'hommes. Parfois ça a même été un milieu un peu machiste. Et il est vrai que certains clients considèrent que la femme n'a pas forcément la connaissance technique, parce qu'ils pensent que le produit n'est qu'un produit technique au sens mécanique du terme. Une voiture aujourd'hui, c'est beaucoup beaucoup d'électronique. Et la femme est tout à fait capable, même parfois mieux que l'homme, d'être capable de parler d'électronisme au sens GPS, etc., etc. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, nos clients, qui sont souvent des hommes, considèrent que la conduite d'une automobile est plutôt homme que femme. C'est totalement faux. Vous avez des femmes qui sont pilotes de rallye et même pilotes de formule. Donc, mais vous avez raison, la mentalité a du mal à évoluer. Donc on trouve peu de femmes dans l'automobile. On avait encore, il y a quelques mois, une femme qui est toujours dans l'automobile, mais qui est partie pour notre entreprise sur Bordeaux. Donc oui, il y a des femmes. Elles ont des qualités que les hommes n'ont pas, c'est-à-dire qu'elles ont d'abord souvent le charme ou le charisme que les hommes n'ont pas toujours. On sent que le métier évolue et que les femmes viennent dans ce métier parce qu'il y a des femmes qui achètent des voitures seules. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui viennent acheter leur voiture.
Sans leur mari.
Sans leur mari, sans leur conjoint. Et de fait, elles sont contentes de voir des femmes. Donc, le métier est en train d'évoluer, mais vous avez raison, on n'est pas encore à la parité que tout le monde requiert aujourd'hui, loin s'en faut, et je reconnais, c'est dommage. De toute façon, il faut avoir des rêves. Si vous avez un rêve, si ce rêve, c'est vraiment un rêve que vous avez au fond de vous, donnez-vous les moyens de le réaliser, vous le réaliserez. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que les sorties avec les copines, le sport, les copains, c'est un peu moins que les autres. Il faut
ça,
le savoir.
Ça vaut le coup, tous ces sacrifices ?
Ben oui, ça vaut le coup. Parce qu'après, ce sera le métier que, enfin, j'espère que j'exercerai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ouais.
Et voilà, c'était Jean-Philippe Juvin, donc notre expert du jour pour la petite histoire. Le directeur donc du showroom de Audi a donné sa carte de visite à Sokona pour qu'elle le contacte dans les années à venir pour des stages ou autres. Et je peux vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Eladj, ta réaction, est-ce que tu trouves que ce sont de bons conseils ?
Oui et non. Dans le sens où je suis tout à fait d'accord sur le fait que quand nous avons des rêves, il faut essayer de se donner les moyens pour essayer d'y arriver. Mais par contre, là où je suis moins d'accord, c'est sur le fait que malgré tout, mine de rien, dans son discours, je pense qu'il veut bien faire, mais il se rend pas compte qu'il est quand même très très genré et qu'il estime que les femmes peuvent faire telle ou telle chose. Non, moi je pars du principe que tout ça, ce sont des choses à déconstruire. C'est que à la base de la base, on est tous vierges, on est tous neutres. C'est autant il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres, mais ce n'est pas une question de genre. Là-dessus, en tout cas, je suis pas d'accord. C'est sur le fait, par exemple, que sur l'aspect mécanique, c'est vrai que c'était un truc qui était très masculin et que maintenant l'aspect électronique, c'est un truc qui soit très féminin, ça n'a aucun sens.
C'est donc que les femmes ont beaucoup de charme.
Ouais, c'est ça aussi, c'est un truc qui m'a.
Et donc elles vendent mieux des voitures.
Ouais, alors que ça n'a absolument aucun sens. Après, j'ai senti qu'il a essayé de se rattraper en disant qu'elles avaient plus de charisme, mais non. Enfin, c'est pas une question de charme, c'est pas ça du tout. Moi, je pense aujourd'hui que quelqu'un comme Sokona, par exemple, ce qui me touche chez elle, c'est sa détermination. Donc aujourd'hui, si je suis face à elle, qu'elle essaye de me vendre une voiture, qu'elle est aussi déterminée, qu'elle y croit. Moi, ce sera pas une question de charme ou de quoi que ce soit.
Ou c'est... de fille ou de garçon.
Non, je m'en fiche complètement. Donc là-dessus, je suis pas d'accord.
Merci Eladj d'être venu jusqu'à nous pour nous confier tes rêves. On va suivre en tout cas de très près tes projets et on te souhaite évidemment de tout notre cœur de réussir à sauver le monde.
Merci beaucoup.
Merci également à Jérémy Besset pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les photos des jeunes et les liens internet sur notre page Le Monde est à nous sur RFI.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour parler cette fois-ci sexualité avec deux jeunes femmes, Kat, 19 ans, et Léa, 23 ans, qui nous confient leurs secrets et leurs conseils les plus intimes. D'ici là, ne laissez pas l'été vous échapper, c'est le début, et il faut en profiter dès maintenant. Alors salut à tous.
À la semaine prochaine.